Chapitre 3. Le cousin Clovis écrivit une lettre. Ce fut toute une affaire. D'abord, comme il n'avait pas de papier, il en emprunta à Mlle Célani, qu'il vint ensuite consulter à propos de diverses subtilités d'orthographe, son instruction étant défectueuse sur ce point, comme celle du premier consul. Il fit un brouillon qu'il recopia de sa large écriture neuchâteloise, nette et carrée. Ensuite, il plia son papier ingénieusement et, comme il se défiait des enveloppes gommées, il fureta plus d'une grande demi-heure dans son secrétaire pour retrouver son cachet et un bâton de cire rouge. L'adresse, une fois écrite, il fallut rouvrir la lettre où l'on avait omis des salutations pour un certain cousin Jacques, lequel aurait bien pu s'en formaliser, et M. Clovis eut passé un jour à décacheter et recacheter des enveloppes plutôt que d'offenser le plus insignifiant de ses vieux cousins. Après cela, il s'agissait de guetter le facteur qui passait vers 3 heures sur la route au bas du jardin, faisant sa tournée quotidienne. Le premier jour, on le manqua, ce qui contraria fort le cousin Clovis. « Demain, tu feras le guet avec moi, » dit-il à Zoé. « Aussi bien, c'est à ton profit que j'ai écrit cette lettre. » Mais il ne voulut pas lui en révéler davantage, bien qu'elle le câlina, curieuse et un peu inquiète, assurant que si on faisait un complot contre elle, elle se sauverait dans les bois et qu'on ne la reverrait jamais. Ils s'installèrent pour leur vigie sur un vieux petit banc de bois, tout noirci par la pluie, qui se trouvait à l'angle du jardin sous un lilas et qui dominait la route de toute la hauteur du mur en terrasse. De cet observatoire, on apercevait un quart de lieue du lacet blanc qui poudroyait entre deux talus d'un vert grisâtre. Ce facteur était un prétexte, ce banc de bois une embuscade. M. Clovis avait amené là sa petite cousine dans l'intention expresse de la gronder, mais il ne savait trop comment s'y prendre, car c'était la première fois et l'enfant ne se doutait de rien. Le coude appuyé sur le mur et sa petite tête penchée sur sa main, Zoé regardait au loin les grandes prairies ondoyantes, magnifiquement moirées de soleil. M. Clovis, assis à l'autre bout du banc, ne pouvait apercevoir son visage, mais seulement le contour de sa joue et la ligne flexible de son long cou blanc incliné. « Zosette !» commença-t-il après un silence. « N'as-tu pas été un peu dur avec Samuel ?» La petite tête se détourna davantage. Une teinte vermeille se répandit sur la nuque de neige où frisottaient quelques cheveux. M. Clovis vit avec remords ses signes d'émotion. « Je ne voudrais pas te faire de la peine, ma petite, » reprit-il. « Je ne voudrais pas non plus être indiscret, et tu n'as pas de comptes à me rendre, car enfin, je ne suis que ton cousin. Mais je dois dire que tu m'as étonné, oui, tu m'as étonné, et même chagriné. » « C'est la faute de grand-papa, » murmura Zoé, toujours détournant la tête. « Pourquoi prétend-il que nous étions à tu et à toi, et toutes sortes de choses ?» Et puis, il se fâchait, alors j'ai été obligée de dire quelque chose. « Mais, » s'écria-t-elle, en se retournant tout à coup et en laissant voir à M. Clovis son visage couvert de rougeur, « je ne comprends pas moi-même pourquoi j'ai lancé cette impertinence. Je suis horriblement timide, cousin Clovis. » Sa voix trembla et ses yeux se remplirent de larmes. « Et alors, quand on me pousse à bout, je dis n'importe quoi pour en finir. » M. Clovis toussa, hocha la tête, puis croisant les jambes, il balança son pied pendant quelques minutes. L'explication lui paraissait incomplète. « Ce ton piqué que tu avais, » fit-il lentement, comme s'il réfléchissait à haute voix, « était-ce aussi un effet de ta timidité ? J'aurais cru, moi, je puis me tromper assurément, que tu étais vexé de ce que Samuel ne parla pas le premier. »«
Oui, c'est bien cela !» cria Zoé presque joyeusement. « Il aurait dû parler, n'est-ce pas ?»«
Voyons un peu, voyons un peu !» fit le cousin en passant la main sur son menton rasé. S'il avait dit « Tutoyer cette jeune personne, mais très volontiers, rien de plus facile, tu l'aurais trouvé bien outrecuidant. » S'il avait dit au contraire « Ah, pour cela, jamais de la vie !» ton grand-père se serait fâché et toi-même, ma petite, tu aurais senti qu'on t'enlevait quelque chose, le privilège de refuser qui appartient à ton sexe. Samuel te l'a laissé, il a bien fait. Voilà comment je vois les choses, je ne sais si je vois bien.
« Mais alors, » murmura Zoé d'une voix plaintive, « que dois-je faire, moi ? Faut-il lui demander pardon ? Le cousin sourit. « Oh, la jeunesse, quelle belle chose » fit-il d'un air moitié touché, moitié ironique. « Elle a de ces élans qui vont toujours aux extrêmes. Zosette, n'est-ce point le facteur que j'aperçois là-bas ?» C'était le facteur. On l'invita à entrer pour se rafraîchir, on lui remit la lettre et l'entretien ne fut pas renoué. Le cousin Clovis n'était point d'ailleurs un donneur de conseils. Ayant mis l'esprit de Zoé dans la ligne droite, il le laissait aller seul jusqu'au bout. Tout en se dirigeant vers son arbre, avec deux petits volumes gris dans sa poche, Zoé continuait à réfléchir et à creuser plus profond dans ses impressions. Elle se rendait compte maintenant du dépit qu'il avait fait parler. Ce grand garçon, très rouge, mais très grave, et qui redressait fièrement la tête, n'avait pas eu l'air de regarder comme un honneur les familiarités qu'on l'autorisait à prendre. Ça avait été là son crime, oui, c'était bien cela. Que faire alors? Comment réparer? Le chemin que suivait Zoé sur la pointe des pieds, en balançant ses bras et sa taille souple pour garder l'équilibre, était le fait d'un vieux mur écroulé, qui, autrefois, séparait deux domaines, mais dont on laissait maintenant les pierres rouler à droite et à gauche sous l'herbe. En certains endroits, il disparaissait entièrement sous le remous des hautes graminées. Plus loin, un gros bloc, puis une série de petits monticules rocailleux marquaient sa trace au milieu des touffes d'orpins, des grandes valérianes, des oseilles aux hampes rouges. Il s'arrêtait à un bouquet de jeunes frênes, quatre troncs gris, ronds et sveltes, qui s'élançaient d'une seule souche et balançaient légèrement leurs panaches transparents et découpés. Une grosse pierre sous cet ombrage était le retrait favori de Zoé. Quand elle était lasse de lire, elle renversait la tête contre le tronc lisse qui lui servait de dossier et elle regardait en l'air, à travers les feuilles, ce qui se passait là-haut dans le ciel. Il s'y passait toujours quelque chose. Les nuages prenaient des figures étonnantes ou, si le ciel était tout bleu, la feuillée en se mouvant le découpait de cent manières. Il y avait aussi les prés qu'on aurait pu contempler des heures entières sans ennui. Jamais ils n'avaient été plus beaux que cette année. Comme il avait beaucoup plu au printemps, les graminées étaient très hautes. Elles dominaient les grandes marguerites, les trèfles, les sarcettes et donnaient une douceur vaporeuse à l'aspect lointain des prairies. Rien n'est plus divers que les graminées. Les unes sont blondes et légères, elles flottent comme un voile sur le vert de l'herbe. D'autres, au panache foncé, forment de grandes taches d'un violet métallique qui ondulent et se fondent dans la teinte environnante. Ailleurs, on dirait qu'il y a des plaques d'herbes mouillées. Ce sont les colonies de la gracieuse brise amourette qui tremblent et secouent ses frêles grelots d'un brun luisant. Vienne un coup de vent, il faut voir toutes ces hautes herbes se courber, onduler, se relever, puis tourner toutes à la fois comme pour chercher à s'enfuir et monter en vagues les unes par-dessus les autres. Quelquefois, ce n'est qu'un frisson d'impatience qui les parcourt. Alors, elles agitent leurs panaches bruns qui ont au soleil des chatoiements de violet et de mordoré, ou bien elles s'inclinent lentement, lentement, avec un froufrou et un murmure, et rien n'égale la grâce de leur longue révérence. Zoé se pencha pour cueillir entre deux pierres une touffe d'herbes folles dont les jolies aigrettes dansaient. Elle les regarda de près et les vit fleuries. Sous les délicates petites écailles d'un gris lustré était comme peint un petit point lilas d'où pendaient deux exquises étamines ressemblant à deux petits marteaux d'or. Une poudre veloutée les couvrait, et quand Zoé, comme une enfant, en approcha ses lèvres, elle trouva à cette fine poussière un drôle de petit goût de réglisse. Appuyée sur son coude, elle se caressait lentement la joue de son petit bouquet d'herbe, regardant devant elle la ligne sinueuse du joli mur écroulé qui éparpillait à droite et à gauche ses pierres grises, plaquées de mousse lisse comme du velours mouillé, et dans chaque interstice, les collerettes blanches du cérès, l'orpin aux touffes pulpeuses d'un vert pâle qu'étoile le blanc rosé de ses petites fleurs. Un souffle de vent passa qui agita de bas en haut les branches du frêne. Toutes les feuilles se retroussèrent, l'arbre devint grisâtre. Un essaim de petits papillons blancs s'abattit sur le mur comme une poignée de pétales de marguerite, puis, l'air étant redevenu tranquille, ils se remirent à voler deux à deux, comme joints par des fils invisibles, tant leurs mouvements se suivaient et s'enlaçaient. Zoé les suivait des yeux, et du côté où s'envolaient les papillons, elle aperçut Samuel qui venait par le sentier. Elle se dressa d'un bond. « Samuel » cria-t-elle d'une voix claire. Ce fut l'impulsion d'une seconde. La seconde d'après, elle baissa la tête avec consternation. Pourquoi avait-elle appelé ce grand garçon qui s'en allait par les prés sans la voir? Elle n'avait rien à lui dire, mais rien. Il s'arrêta aussitôt et la vit à 50 pas, perchée sur sa grosse pierre, un peu inclinée en avant, légère et mignonne comme une mésange. « Mademoiselle, » dit-il en soulevant son chapeau. Comme elle n'ajoutait rien, il vint à elle en suivant la crête du mur, ainsi qu'elle l'avait fait pour ne pas fouler l'herbe. Il est mal aisé de garder un air digne quand on marche sur des pierres branlantes en agitant ses bras comme des balanciers et en exécutant des pas de fantaisie d'un bloc à l'autre. Zoé suivait avec intérêt les péripéties de cette traversée. Elle s'était rassise et quand le jeune homme fut devant elle, elle le regarda avec un petit sourire. Alors, comme il était gai de nature, il se mit à rire aussi. « Vous vouliez me parler ? » dit-il. « Non, non, pas précisément, mais puisque vous voilà, je trouverai bien quelque chose à vous dire. Avez-vous lu Monte-Cristo ? » dit-elle vivement, comme les regards de Samuel tombaient sur les deux petits volumes gris qui avaient roulé dans l'herbe. « Non, je ne l'ai pas lu. » « Alors il faut le lire. Vous verrez, c'est magnifique. Je vous le prêterai si vous voulez. Aimez-vous à lire ?» Elle parlait très vite pour empêcher sa timidité de reprendre le dessus. Elle sentait que, si elle réfléchissait un instant, si elle s'arrêtait pour chercher ses mots, elle était perdue, elle ferait quelque énorme bévue qui offenserait irrémédiablement Samuel. « Oui, j'aime assez à lire quand j'ai le temps, » répondit-il. « Mon oncle de là-bas est un liseur, » mais pas dans ce genre. Il désignait de la main les petits bouquins gris. Il lit tous les journaux et les livres d'agriculture et les discours de M. Thiers, du sérieux enfin. Ah, les discours de M. Thiers, c'est très bien écrit. Moi, dit Zoé, je n'ai pas lu cela, mais vous aimerez Monte-Cristo, je vous assure. Imaginez qu'on le coud dans un sac et qu'on le jette à la mer tout au commencement. Cela vous donne le frisson. « Asseyez-vous, » fit-elle en lui offrant une pierre d'un geste poli. Mais il refusa, alléguant qu'il était pressé. Alors elle se leva et se tint très droite, comme le faisait sa tante quand un visiteur s'en allait. Elle ne lui tendit pas la main. Mademoiselle Célanie n'aimait point ses façons à l'anglaise, mais elle lui dit gentiment « Au revoir, Samuel !» Il la regarda un instant comme attendri. Elle était si mince, si frêle dans sa petite robe étroite de percale claire qu'on l'eût cueillie comme une fleur, comme une pâquerette blanche. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-elle étonnée. « J'ai... que je me suis conduit comme un rustre l'autre jour. Je me suis fâchée. »« Pas du tout, c'est moi » cria-t-elle. « Vous, vous aviez l'air d'une petite princesse. Pour ce que nous aurons à nous dire. » répéta-t-il avec l'intonation exacte que Zoé y avait mise. On eût pu croire que ces mots n'avaient cessé de tinter à ses oreilles depuis 3 jours qu'ils avaient été prononcés. « Vous me faites honte, c'est très mal à vous, » dit Zoé, qui sentait ses joues devenir brûlantes. « Depuis que vous êtes là, est-ce que je n'ai pas trouvé toutes sortes de choses à vous dire, rien que pour vous faire voir que je regrette ces vilaines paroles ?» « C'était pour cela, » dit-il. « Certainement. » Il se détourna pour s'en aller. « Qu'il est donc ennuyeux, » pensa Zoé. « Le voilà qui se refâche. »« Samuel, » dit-elle en faisant un pas après lui. « Eh bien, mademoiselle. »« C'est cela. Je pensais bien que vous aviez oublié ce qu'a dit grand-papa. Il veut que vous m'appeliez Zoé. »« Mais vous, » dit-il. « Oh, moi, je ne peux pas vous conseiller de désobéir à grand-papa. » Ils restèrent l'un en face de l'autre, très graves. « Si vous m'y autorisez, » fit-il avec autant de sérieux que par-devant notaire. « Parfaitement, je vous y autorise, » répondit-elle d'un air digne. Et d'un prompt mouvement, elle battit en retraite vers son arbre, sentant qu'un mot de plus eût gâté le cachet noble et solennel de cette cérémonie. Elle s'assit et rouvrit son petit livre, tandis que Samuel s'éloignait. Comme c'était bon d'avoir maintenant la conscience nette et blanche. Zoé poussa un grand soupir de satisfaction, puis elle se hâta de chasser Samuel de sa pensée. Il lui tardait de revenir tout entière à son cher Monte-Cristo. Le jeune homme suivait en sifflant gaiement un petit sentier tracé comme un sillage à travers les prés jusqu'au mur qui entourait les pâturages. Il avait le cœur si rempli de contentement qu'une allure tranquille ne pouvait lui suffire. Il se mit à courir comme un écolier, son chapeau à la main, la tête rejetée en arrière, pour aspirer librement un air qui ne lui avait jamais paru aussi délicieux. Quand la barrière l'arrêta, il eût pu passer à côté par le petit passoir ménagé là pour les gens raisonnables, mais souhaitant au contraire que la barrière eût 5 traverses au lieu de n'en avoir que 3, il appuya ses mains sur la plus haute, s'enleva légèrement et retomba de l'autre côté sur le fin gazon de la pâture. Après quoi, il ramassa son chapeau qui roulait à l'aventure et le jeta en l'air le plus haut qu'il put. Cet objet sans malice n'aurait pu lui causer de plus sensible plaisir que de rester accroché à quelques branches peu accessibles. Malheureusement, il redescendit tout droit et Samuel en fut réduit à le remettre tout bonnement sur sa tête. Dans un creux du mur qu'il longeait, il aperçut une touffe de violettes qu'il se baissa pour voir de plus près. « Quelles sont gentilles !» pensa-t-il. Mais il ne les cueillit pas. Il regarda d'un air indécis la grande boutonnière fendue dans le revers de sa veste de rue de Mylène, puis une vague association d'idées, un de ces nuages qui montent on ne sait d'où, lui traversant l'esprit, il se redressa, mit ses mains dans ses poches et continua sa route moins gaiement. À mesure que le soir approchait, Zoé devenait triste. Il en était de même tous les jours. L'ennui s'épaississait autour d'elle avec l'obscurité. Si on le lui avait permis, elle serait restée dans sa chambre, mais Mlle Célanie estimait qu'une jeune fille doit être sociable. La sociabilité consistant à rester assise bien droite sur une vieille chaise à haut dossier, tandis que Mlle Célanie lisait le journal comme une série d'arrêts de mort, que l'aïeul somnolait et que le cousin Clovis tortillait ses doigts, paraissait à Zoé une vertu sans charme. Jusqu'à quel point la pauvre petite s'ennuyait, elle ne le savait pas elle-même, car ne s'étant jamais beaucoup amusée, elle manquait de points de comparaison. Le cousin Clovis, penché en avant et les deux mains nouées autour de son genou, avait les yeux fixés sur Zoé, qui, triste à pleurer, ne remuait non plus qu'une image. Tout est là pourtant, tout est là, se disait-il, une petite figure pleine d'appât, un petit cœur sensible, mais il y manque l'étincelle. Ah oui, il y manque l'étincelle.